est Marc, salut Esma et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 2 mai 2022 à Greensboro, en la Caroline du Nord. Et avec moi pour m'accompagner dans l'analyse de ce show exceptionnel, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton!
Salut patron et salut peuple de Catch Up! Bienvenue pour la review hebdomadaire du vaisseau amiral de la WWE. Greensboro en North Carolina, dis donc, c'est un bled ça. C'est un peu comme si, c'est un peu comme s'ils allaient à Niort, quoi.
Ouais, c'est un peu le Niort de Caroline du Nord, voilà, exactement. Oui.
Sans vouloir faire injure aux Niortais. Hein.
Oh non, jamais. On fait la bise à tous nos auditeurs de cette belle ville de Niort. Qu'on fera la tournée, le Tour de France catch-up, ce sera une étape évidente. Rien que parce que tu les as bâchés, on sera obligé d'y aller.
Un passage obligé à Niort.
Tonton, faut qu'on parle.
Ah bon ? Merde, qu'est-ce que ouais. J'ai fait ? J'ai fait une connerie ?
T'as fait une connerie ? Tu m'as fait une infidélité ? Tu t'es trouvé un nouveau partenaire ?
Ah ! Ah ! Oui !
Genre, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait des cochonneries dans le studio ? J'en ai entendu parler.
Ah ouais, ouais. Il en a laissé partout. Hein.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui c'est ce Christophe là ? Christophe A. Raconte-moi tout, je veux savoir.
Christophe A. Juste, et bah écoute, c'est le beau cadeau pour les 6 ans de catch-up, puisque peuple de catch-up, c'est en ligne. Vous pouvez pendant 1h30 avoir le plaisir de retrouver la moitié, on va dire, des voix françaises du catch mondial francophone, quoi. Et c'est Christophe Ajus qui nous a fait l'honneur du studio. C'était assez extraordinaire, quoi. On ne le remerciera jamais assez au nom de toute la team Catch Up. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour glisser un mot sur le patron en parlant d'un autre patron que lui, il connaît bien à la WWE. Et c'est assez savoureux quand tu tomberas sur ce passage.
Ouais. Je vous invite tous à aller écouter. Effectivement, cet entretien exceptionnel, comme on se l'est dit. Hein. On avait dit qu'on ferait rien pour les 6 ans de Catch Up. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait, tonton ? Il a vu Christophe Ajus au studio. C'est ça, on fait rien. Bon, en tout cas, je sais pas toi, mais je trouve que le studio, il a changé depuis que Christophe est passé. Il est plus rayonnant, l'impression qu'il y a quelque chose, une atmosphère là qui règne dans le studio.
On a laissé entrer le soleil, quoi.
Ouais, eh ben écoute, le soleil, on va le garder, on va mettre en lumière ce qui s'est passé dans le show rouge. Hein. C'est le retour aux affaires courantes. Tonton, puisque c'est un épisode important ce soir, c'était le Go Home Show avant WrestleMania Backlash.
Et oui, exactement. Ouais. Donc là, on est sur la route. Là, c'est la semaine décisive pour nous emmener vers WrestleMania Backlash. Alors, il y a 6 matchs à la carte annoncés jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en aura un ou deux de bouquets, à mon avis, supplémentaires à SmackDown. Mais en tout cas, ce Monday Night Raw s'annonce déjà bien velu.
Un qui est bien velu, peut-être un peu moins qu'avant, c'est Paul Heyman. Hein, tu te souviens, avant, il avait sa petite queue de cheval là.
Et catogan.
Catogan de si reconnaissable, ça fait quelques années qu'il a laissé tomber. Hein. La Bloodline ouvre le show rouge, ladies and gentlemen, le chef de la table, le chef tribal, la tête de la table, le chef tribal, voilà, si je me trompe dans les dénominations, les titres de notre champion unifié. Et
tu vas avoir des problèmes.
Je vais avoir des soucis, moi.
Vous êtes plus. Tu vas avoir des problèmes d'acknowledgement.
Justement, il demande à la Caroline du Nord de l'acknowledge. Mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps, cette introduction, puisque les RKBro sont sortis des buissons là et ont placé des RKO sur les frangins Ouzo. J'ai trouvé ça une super séquence, très étonnante. C'est vraiment bien synchronisé.
Sous une pop stratosphérique. Randy Orton.
Voilà, on n'a jamais entendu une aussi grosse ambiance à Niort. Là, tout le monde était debout. Voilà. Tout le monde s'est retrouvé sur la place de la mairie en chantant les chants RKO, RKBro. Et surtout, ça a fait place nette. Place nette pour qui ? Pour le bel homme, le psychopathe écossais qui débarque avec Angela Wakefonchua, son épée. Son épée adorée pour envoyer un message à Roman Reigns qui est un petit peu là, pris au piège, hein, pris en étau là par tout le monde. Et du coup, bah, c'est les arbitres qui viennent arrêter la baston, parce qu'après, ça part en cacahuète, tout le monde se fout sur la tronche. Et c'est comme ça que se termine cette intro. On ne reverra plus les hommes que nous venons de citer. C'est assez rare, hein, souvent, hein, ce qui se passe en opener, on le retrouve un petit peu à la fin du show. Mais en tout cas, le ton a été donné. Moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien foutu, là, cet opener.
Du coup, ils nous les ont gardés au show. Apparemment, Randy Orton, il avait quelques consignes. Déjà, à Paris, apparemment, il a pris que très, très, très peu de bumps. Donc, je pense que là, on protège à fond les catcheurs et catcheuses dans l'attente de WrestleMania Backlash. Mais c'était cool. Ouais, c'était un segment cool. C'était un segment assez speed en plus, quoi. Souvent, tu vois, la signature de contrat et tout, on s'attend à un truc assez long et tout ça. Mais en fait, ça a été assez vivace, cette affaire. et ce festival, et comme je disais tout à l'heure, un pop stratosphérique des RK-Bro, c'est incroyable. Non, mais là, ça devient quasiment un phénomène de foire, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est le but. Et c'est assez extraordinaire. Et puis, le bel homme, quoi. Le bel homme. Avec l'épée. C'est que... Alors, franchement, c'était quelque chose. Et puis, ça nous place quand même. Donc, ce fameux 3v3 à WrestleMania Backlash, on pourrait en être étonné, hein, sur certains aspects. On aurait pu penser qu'ils allaient lancer véritablement la rivalité McIntyre-Roman Reigns, mais ils ont décidé d'abord de faire un passage. J'ai presque envie de te dire obligé par la Tag Team Division, parce qu'en ce moment, elle est tellement dans la hype, cette division à Monday Night Raw. D'ailleurs, même notre ami Christophe Ajus l'a louangé lors de notre You Talk Too Much, hashtag 14.
Écoute, si Christophe l'a dit, alors c'est que c'est vrai, ça, c'est sûr et certain. Effectivement, écoute, dis-moi, toi qui sais sûrement, voilà, toi qui as un réseau maintenant, t'as un vrai, véritable réseau, on a bien compris que tu connais du beau monde, du beau gratin.
Dans le secret des dieux.
Qu'est-ce qui se passe avec Roman Reigns? Je croyais qu'il avait été blessé à WrestleMania, et du coup, il n'allait pas beaucoup catcher. Mais finalement, là, il va être présent ce dimanche, à WrestleMania Backlash. Donc, il va bien, notre ami.
Ouais, il va bien. Il est préservé un peu, quoi. Un peu comme Randy Orton, là, si tu veux. Là. Je crois que là, il y a quelques catcheurs sur lesquels, en ce moment, ils mettent un peu la pédale douce et à qui ils disent « Ouh là là, on y va, peinard ». Parce qu'en fait... C'est ce que je crois d'ailleurs, explique Christophe, le fait est que bah, les mecs catchent tous les soirs, que Roman Reigns, bah, il a enchaîné l'European Tour, il a catché tous les soirs, 7 jours sur 7, tu vois, pendant toute la tournée européenne, quoi. Donc le mec arrive à Greensboro, North Carolina pour Monday Night Raw, il est peut-être un petit peu cramé, un petit peu jet-lagué, et du coup peut-être qu'ils se sont dit par mesure de précaution, ouais, WrestleMania Backlash pour lancer un contre un avec le psychopathe écossais, c'est peut-être pas maintenant tout de suite. Et on va continuer et voilà, surfer sur cette fameuse hype qu'il y a autour de la Tag Team Division à Raw qui a jamais été aussi resplendissante grâce à des champions quasiment incroyables. On a l'impression que ça fait 5 ans qu'ils sont champions, Riddle et Randy Orton.
Bah écoute, c'est que c'est une équipe fusionnelle, hein, tous les deux. Hein. Ils sont bien. C'est devenu des frangins, en fait. Hein. Ils sont frères de RKO.
C'est
frère de ring. Frère de ring. On reste dans la division tag team, si tu veux bien.
Oui.
Puisqu'on a une petite séquence avec Ezekiel. Alors, non pas qu'Ezekiel soit membre d'une tag team, quoique si, avec son frère. Il pourrait former une tag team diabolique. Il pourrait, alors là, si le jour où Elias revient et qu'il se met avec Ezekiel, je pense que ce soit les Ouzo ou les RK-Bro, tout le monde aura un petit peu de soucis à se faire. Il se retrouve avec les Street Profits et puis il boive un petit coup. Et puis là, Kevin Owens et l'Alpha Academy débarquent. Pour foutre le bordel, accuser Ezekiel d'avoir triché au détecteur de mensonges. Et du coup, on nous officialise dans la foulée un 3v3 comme on les aime tant. Direction donc les cordes avec le match qui commence. Gable qui se fait attaquer par Montez Ford. Montez Ford et son poteau. Mince, j'ai oublié son nom.
Angelo Dawkins,
en fait j'oublie son nom, mais je trouve qu'Angelo Dawkins il s'améliore de mois en mois, il est vraiment très 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 agile, il nous fait une petite prestation assez enlevée quand il est entre les cornes. Tout le monde a une petite baston, un petit échange de armbar, ça échange d'ailleurs, on a un triple dropkick là qui envoie Gable, ou ouais c'est Gable ou Otis, je ne sais plus au sol. On revient après la petite page de pub. Ford, Montez Ford est en galère. Owens qui place un moonsault pour enchaîner. On a ensuite un chinlock porté pardon, par Ford et qui place ensuite un enziguri pour enchaîner. Le tag. C'est Ezekiel qui en bénéficie. Et Ezekiel avec son petit costume Ah ben j'en perds mes mots. Comment s'appelle-t-il L'Ultimate Warrior. Voilà. Oh là là là. Il faut que je révise. Ultimate Warrior. Il enchaîne et puis tout part en couille jusqu'à ce que Owen fasse tomber le pauvre Ezekiel et Gable qui en profite pour placer le roll-up de la victoire. 1, 2, 3, victoire des méchants sur le pauvre Ezekiel et les Street Profits, mon bon tonton.
Ouais, victoire dans un match assez sympa, match de 10 minutes, belle petite ouverture. Ezekiel, hein, moi je continue à dire qu'il est meilleur que son frère dans le ring. Peut-être moins à l'aise en promo, mais meilleur dans le ring. Et c'est assez extraordinaire. Il y avait du coup plutôt une belle alchimie du côté des babyface. Mais là, on avait des heals ultimes. Et puis on a un Kevin Owens qui est quand même complètement furieux par cette affaire des frères Ezekiel et Elias. Et je sens que ça va le rendre complètement fou, hein, cette histoire. Hein. Là, je commence à avoir des doutes sur. Sur les facultés psychologiques de Kevin Owens de se remettre de cette affaire. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Le seul truc, finalement, c'est qu'on sait pas trop où vont, pour le coup, les Alpha Academy, les Street Profits et tout ça. Parce que ils rôdaient pas mal autour du titre. Et puis là, on est un peu à l'arrêt avec ce qui se passe avec Ezekiel. Alors, est-ce que sur le futur, là, c'est parce qu'on va coller un partenaire à Ezekiel ? Est-ce que lui aussi va, comme tu l'as dit, peut-être son frère, mais peut-être quelqu'un d'autre aussi, pour intégrer la Tag Team Division définitivement ? Parce qu'il y a un moment, va bien falloir en faire quelque chose de ce petit nouveau, là, de ce rookie.
Ouais, bon, pour l'instant, il est plutôt couvé et on le place quand même dans des grosses affiches. Hein. On l'avait vu la dernière fois, là, Main Event dans le 4v4, où il était qu'avec des Main Eventers. Des top stars, des superstars ultimes qui font tourner la planche à billets là, de la WWE. Là, ils se retrouvent encore plutôt bien lotis avec ce 3v3 qui, effectivement, occupe un petit peu du beau monde en attendant que ça se décante derrière, après, probablement après Backlash, ou peut-être on va... Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'avec ce 3v3 qui a été booké en main event de Backlash, c'est pas encore fini, hein, cette histoire, notamment entre les RK Bro et les frangins Ouzo, parce que notre match d'unification, là, on sait pas trop quand est-ce qu'on va l'avoir, mon tonton, du coup. Donc,
c'est un petit peu,
faut attendre. On est dans la file d'attente, mais comme tu l'as dit, c'était un bon match d'une dizaine de minutes, plutôt bien décrit, avec les méchants qui avaient le contrôle, et puis ce beau tag là d'Ezekiel, et puis Kevin Owens qui fait effectivement. Qui creuse encore un peu plus profondément dans le mal-être psychologique de l'éternel incompris, l'homme qui sait tout, qui voit tout, mais et nous, on est trop cons, on voit rien, on comprend rien. Et ça, le pauvre Kevin Owens, je ne sais pas, comme toi, si un jour, il arrivera à s'en remettre. J'espère que la cellule psychologique fera son travail à Stamford, là, parce qu'il faut du soutien psychologique là, pour le pauvre Kevin Owens.
Je crois qu'il en a besoin, ouais.
Vierman, ça continue, lui, si pas trop besoin de soutien psychologique, Vierman.
Ah non.
Quoi qu'à un moment donné, je pense qu'il devait en avoir besoin, parce que ça faisait un an qu'on l'annonçait, le pauvre, il est arrivé, la porte était toujours fermée, il a dû dire au bout d'un moment, mais en fait, on me rejette, on ne me veut pas. Sauf que ça y est, maintenant il a ouvert la porte, et ben il déroule, et puis il tue du jobber local. Alors là, cette fois-ci, on a eu droit à un jobber local qui a eu droit, lui, à une petite séquence de micro, parce que c'est un vrai local, qui a de Niort, hein, Burt & Son, de Niort. Vous le savez pas. Vous avez, ils ont aussi des catcheurs à Niort.
Les deux Sèvres sont réputés pour être un terreau de bons catcheurs.
Bon, par contre, il s'est fait descendre en 1 minute 30. Hein, donc voilà, on est encore dans la division inférieure là, du catch. Mais on les encourage. Hein, ils ont au moins brillé ce soir par leur présence. Et puis, le cervical clutch, comme tu me l'avais signalé la semaine dernière, de Vierman. Qui fait abandonner le pauvre Burt, et puis qui d'ailleurs ils sont enchaînés derrière Enfin voilà, le ne veut plus lâcher l'affaire, Virman. Une fois que la bête, Virman, a décidé qu'il allait te faire un gros câlin, bah, il te fait un gros câlin, même si toi, tu n'as plus très très envie. Il n'accepte pas le nom, Virman.
Ouais, cervical clutch, mise en conformité, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est tous les lundis, on a le droit à la vérification. Est-ce que s'il se verrouille bien, eh ben écoute, les cervicales de notre ami Hansen en sont là pour en témoigner. Et voilà, bah écoute, je crois qu'il va péter du jobber comme ça jusqu'à quand ? Jusqu'à Money in the Bank peut-être. Et puis ça se trouve, on va peut-être le coller dans le match Money in the Bank pour lui mettre un premier gros match où il pourra perdre sans, en étant protégé.
Oui, oui, carrément. Ouais, ça c'est un des bons scénarios, effectivement. Moi, moi j'aime bien les squash matchs. Vraiment, pour ce genre de personnage, là, j'aime bien la tradition du jobber local qui se fait démonter et puis que de temps en temps, comme ça, t'en as un qui prend le micro, qui essaie un petit peu de briller et puis ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des mecs se faire démonter en moins de 2 minutes par des gorilles qui font parler les muscles.
Et en plus, on sentait que la promo du jobber, elle était sincère, quoi. Tu vois, venait des tripes, qu'il était heureux d'être là, quoi, et qu'il y croyait. Donc ça faisait plaisir de voir cette motivation, quoi. Même si on savait tous ce qui allait se passer, eh ben c'est pas grave, ça fait plaisir. Vas-y, Bart.
Ouais, on enverra une petite carte. On lui enverra une petite carte à lui ou à sa famille. AJ Styles, il est dans la galère, là, il a le jugement dernier qui lui colle aux fesses, qui veut pas le lâcher, hein, avec Damien Priest et Edge. Il est pas content, AJ Styles, il nous le dit là pendant une petite séquence backstage, hein, il est prêt à aller affronter Edge à Backlash, et en attendant, ce sera Damien Priest. Alors, on a la petite entrée, on a l'entrée habituelle, hein, de Edge et de Priest. Alors, je sais plus, je crois qu'il y a aussi une petite, il n'y a pas une petite vidéo aussi des deux un peu plus tôt, je ne sais plus où, c'est un peu plus tard, il me semble, il y a eu une petite intervention.
Oui,
Chose. Oui, c'est après, non, c'est un petit peu plus tard. Il y a eu beaucoup, je sais pas, il y a eu beaucoup de recap et de previously et de,
ouais,
et de earlier today.
Ouais,
À un moment, mon bon tonton, j'étais pris dans une faille temporelle, pas forcément sur cette séquence-là, mais sur le 24/7, on en parlera, mais je savais plus où on en était. Attends, ça s'est passé ce matin, mais en fait de la semaine prochaine, en fait c'est la semaine dernière. On était un petit peu paumés. Bon, inquiétez pas, paumés, c'était Jay Stahl, parce qu'il savait ce qu'il avait à faire ce soir. Et ce soir, il fallait tout simplement abattre l'homme de main de Edge, hein, le juge de grande instance du tribunal, de grande instance du catch. On a évidemment les deux qui se mettent rapidement sur la tronche, avec quand même un sacré gabarit, hein, du côté de Damien Priest. Ah oui, c'est ça, avant le match, Edge en fait a fait de la cheap hit en insultant les équipes de sport de Greensboro. Je ne sais même pas s'ils avaient une... Parce qu'on est en Caroline du Nord. Je sais pas ce qu'ils ont comme...
Ah si, c'est le basket là-bas qui est quand même un gros, gros truc. C'était... North Carolina, c'était la fac de Michael Jordan quand même, monsieur. Donc, après, je pense pas que c'était Greensboro même, quoi. Mais il a été chercher la cheap hit, ouais, comme tu l'as dit. Mais Edge, j'ai même pas forcément la sensation qu'il a besoin de ça, de toute façon, quoi. Parce que d'ailleurs, c'est il les provoque même, hein, en leur disant allez-y,
ouais,
encore plus fort, quoi. Tu vois, il en demande encore, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il en place 2-3 pour le public, mais le public le bouffe dans la main. Il leur fait faire exactement ce qu'il veut, effectivement. Il a réussi à choper une belle hit et il arrive bien à la conserver. Donc, ça, c'est un bel exercice. Il n'est pas main eventer, il n'est pas Hall of Famer pour rien, ce bon Edge. Donc, le match commence avec les deux hommes qui s'empoignent. Un forearm là qui passe, mais Adam Priest qui résiste. Sals qui place un torture rack transformé en powerbomb pour le compte de deux. C'est toujours une belle prise, surtout quand tu lèves un mec de 125 kilos, là, de 2m10. Priest qui place un choke slam, le Surfs of Heaven choke slam pour le compte de deux à son tour. Et Jay Styles qui place le Calf Crusher, mais Edge qui cause la petite distraction qui va permettre à Damien Priest de se libérer. Mais c'est pas grave, Jay Styles va placer un roll-up, le deuxième de la soirée, pour la victoire. 1, 2, 3. Alors là, il n'a même pas le temps de comprendre qu'il a gagné le match, que Edge, mais une furie, quoi, un enragé qui lui saute dessus à la gorge et qui le passe à tabac. Mais tonton, qui voilà la cavalerie démoniaque, Finn Balor, pour venir en aide à son vieux copain du Japon.
Sweet,
et ouais.
Tout de suite.
Voilà, on en voyait beaucoup trop à une certaine époque. On en voyait beaucoup moins ces derniers temps. Et ben là, vous en avez eu. Vous en avez eu un beau tout de suite là, entre deux anciens leaders d'une faction que nous ne citerons pas ici, parce qu'ici, on est dans la Ligue 1 du catch, tout de suite. Et ben voilà, une doublette qui se crée, peut-être pour aller chercher une autre doublette du Judgment Day, là.
Je suis conscient qu'on vient de perdre 400 abonnés fans du Bullet Club, là.
Moi, alors, j'adore, écoute, le Bullet Club, mais dans sa version originale, celle avec Triple H.
Bah écoute, en tout cas, moi, belle régalade sur ce coup-là. On a un match de 11 minutes avec deux catcheurs que j'aime beaucoup, quoi, en l'occurrence Priest et Edge Styles. Tout ça avec le gourou Edge dans l'affaire, qui vient, qui monte sur le ring, qui s'en prend à l'arbitre, qui s'en prend à la foule, qui redescend, qui remonte. Le mec est monté sur pile en plus en ce moment, quoi. Et puis donc on a un très bon match. La victoire du babyface, mais avec les interventions et avec les intentions de lui faire très 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 mal avec des chaises. Et puis tout ça, et puis cette intervention du démon, ma foi, un binôme Baylor Edge Styles qui me fait assez saliver, moi, j'adhère totalement. Je sais pas si c'est dans l'ambition de recréer un clan, effectivement, ou si ça serait juste un départ un peu de tag team. Bah, disons, ça nous en ferait des tag team 5 étoiles, là. Hein. Arrow, là, il faut qu'ils arrêtent, quoi. et je pense qu'on va avoir un super gros match entre Styles et Edge à WrestleMania Backlash. Alors là, c'est un des matchs que je crois que j'attends le plus dans cette carte. Donc, tout me plaît jusqu'à présent. Et faut que ça continue dans cette ambiance. Et puis, en plus, presque surprise, si tu veux, parce que je m'attendais pas véritablement à l'arrivée de Finn Balor là, comme ça, là, tu vois. Il était presque même perdu un peu dans les limbes, là, depuis qu'il a perdu son titre US face à Austin Theory. Donc, tout ça, c'était plutôt bien joué. En tout cas, ça a bien fonctionné avec moi, quoi.
Ouais, ça fonctionne bien. Il y a clairement là, une belle rivalité entre Edge et Edge Styles. Et puis, l'arrivée de Finn Balor. Alors, attention, hein, Finn Balor, si t'écoutes Papy, c'est un futur traître, hein.
Oui, ah bah oui, Papy, lui, d'entrée, à peine le show était terminé que déjà il accusait de trahison Finn Balor.
Le mec vient aider les copains, tu viens aider un pote et l'autre il te dit, ah, c'est ça, t'es venu pour me trahir, salopard. Ah, d'accord, mec, je viens de te sauver les biches, mais ok, ouais.
Ok.
tu me diras merci plus tard.
La confiance règne dans le vestiaire.
Direction Miss TV, et l'invité de ce soir, c'est pas un qui est alors encore plus bas que les limbes, parce que tu crois que c'est possible, ouais.
Ah bah non, là, et puis alors un long quart d'heure à Miss TV aussi, c'est assez étrange.
Mustapha Ali est notre invité de prestige ce soir dans le Miss TV. Alors, il y a des problèmes techniques, à Miss TV, et qui ne sont pas du ressort du Miz, d'ailleurs Miz n'est pas content, mais étrangement le micro d'Ali ne fonctionne pas bien, et puis sa musique ne fonctionne pas bien, et il y a quelque chose, un petit souci technique, c'est quand même étrange, genre. Ali, qu'est-ce qu'il fait? Il chope le micro du Miz et puis il lui dit, bah voilà, de toute façon, Miz, tu passes ton temps à te plaindre, à gémir, que les choses ne vont pas dans ton sens. Moi, les seules opinions qui m'intéressaient, c'est celle du WWE Universe. Ouais, ouh, elle a la foule.
Ouais, ouais.
Ali, c'est quoi son nom déjà, lui? C'est Ali. Ah, d'accord, Ali. Et Austin Theory, dont tu as mentionné le nom un petit peu plus tôt, débarque et il explique je ne sais plus comment il lui dit ça. Il dit au Miz que suite à sa défaite, je ne sais plus, il y avait une histoire de...
Ouais, c'était que le Miz, en fait, il avait demandé à Vince McMahon, puisqu'il est toujours dans les petits papiers de Vince, hein, théorie, quoi. Et il s'était plaint que le Miz, en fait, il n'avait pas eu le temps de se préparer avant le match contre Ali la semaine dernière, quoi. Et donc, du coup, il a demandé au patron de la WWE de retirer cette défaite à Miz dans les rankings, quoi.
D'accord.
annuler, on annule le résultat. Un petit peu comme pour Jean Lassalle, là, tu vois quoi, à qui on a annulé le résultat du deuxième tour des élections dans sa commune.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Attends, rappelle-moi.
En fait, c'est-à-dire que le 23-24 avril, t'as pas le droit de faire de trucs liés à la politique, etc. pendant le deuxième tour. Et Jean Lassalle, en fait, il s'est fait filmer en train de voter dans son village. Sauf qu'au moment de voter, bah, il a dit, bah, je vais m'abstenir. Et donc, ça a été considéré comme une incitation, tu vois, auprès des électeurs, quoi, en montrant en direct à la télé qu'il votait pas, qu'il s'abstenait et que c'était une incitation aux autres peut-être de faire la même chose, quoi. Donc, c'était une espèce d'erreur morale ou une obligation morale de ne pas montrer ça. Il a le droit de s'abstenir, mais pas de le montrer en direct live à la télé.
D'accord. Donc, le Mise est notre Jean Lassalle.
Voilà.
De Stamford. D'accord, ok. Non, mais c'est bien ça. Ça me rappelle des papiers des cahiers du catch. Hein.
Ah, bah là, on est en plein dedans. Hein. Ça serait, là, il y aurait tout un truc à faire autour de ça.
Bon, en tout cas, Théorie dit que, voilà, il sait même pas. Il s'en prend à son tour à Ali en disant que de toute façon, voilà, ce soir, il y aura un match. Il accepte un match d'Ali. Il va donner une chance à Ali, et ce soir il aura un match pour être de contender, pour devenir prétendant au titre US. Il lui place un petit taquet en disant qu'il ne sait même pas si Ali va pouvoir gérer toute cette hit, et Ali dit il y a bien un truc que je sais gérer, c'est toute la hit là, que j'avais chopée là derrière. Donc il nous parle d'histoire, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu, il a foutu le bordel, hein. Tout le monde le déteste ou je sais pas quoi, il a dû faire des conneries, c'est pas possible, personne ne voulait de lui visiblement. Et tu aurais dit pas de problème, de toute façon ce soir ton match de contender c'est un handicap match, c'est toi contre moi et le Miz. Et oui, donc on a un Miz et Théorie contre Mustapha Ali,
mais
qui s'enchaînait dans un match très très court qui il n'a pas duré longtemps. Théorie a fait une petite distraction, ce qui a permis au Miz de placer son skull crushing finally depuis les cordes. C'était sympa. Il y avait les pieds dans les cordes, Ali, quand il s'est bouffé le finish du Miz. Et Ali, bah, du coup, bah, il s'est perdu. Hein, c'est perdu pour Ali. Et derrière, en plus, il se fait enchaîner par Ciampa. Quoi. Effectivement, il y a une grosse, grosse hit, là, Ali. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui aiment encore Mustapha Ali?
Non, mais la sale soirée pour le Ali, là. Non, mais alors vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Le mec a pas sa musique, le micro marche pas. Il se fait déboîter par le Miz en termes de promo. Mais alors, c'est assez monstrueux hein, pendant le Miz TV, quoi. Et comme le Austin Theory, quand il arrive derrière, il vient en rajouter une couche en disant qu'il a été voir Papy Vince et qu'il a obtenu, bon, en fait, tout ce qu'il avait envie d'obtenir, hein, en réalité, quoi. Et derrière, le mec, il se fait éclater en 2 minutes 50. Et une fois qu'il est tout pété au sol, qui c'est qui arrive? Ciampa. Et Ciampa, qu'est-ce qu'il fait? Il le tabasse. Ah, Ali, il est rentré chez lui, voilà, un café, l'addition, et puis une séance de cryothérapie, et puis au dodo.
Ouais. On le reverra peut-être pas. Ça se trouve, la semaine prochaine, on va apprendre qu'il était dans la charrette, et puis terminado, quoi. Terminado, ce serait pas impossible. Ouais. On sait pas trop vraiment s'ils veulent assumer ou pas le fait qu'effectivement Ali, ça fait un an qu'on le voit pas et qu'il a demandé à être.
Il va peut-être survivre parce qu'apparemment la charrette annoncée, et pour l'instant c'est le cas d'ailleurs, concerne NXT. Et alors à NXT, ils ont pris des mesures drastiques. Hein. C'est-à-dire que dorénavant, t'as un contrat de 90 jours. Si au bout de 90 jours, tu n'as pas montré des signes d'amélioration, tu es renvoyé. C'est les contrats de NXT dorénavant, quoi. Et ça passe comme ça. Et donc c'est pour ça que du coup là, il y a encore plusieurs mecs du roster qui sont partis ces derniers temps là.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, imagine si ce même contrat il y a plusieurs années là, je pense qu'on aurait pas mal, qu'on aurait rapidement vu disparaître, hein, parce que toutes les alias là, qui ont mis 10 ans à progresser avant de pouvoir monter dans le main roster avec un contrat de 90 jours.
Dans le milieu du catch professionnel, enfin, c'est quand même vachement particulier déjà comme système, mais je trouve, tu te rends compte, 90 jours, tu as 90 jours pour montrer une amélioration, mais si tu as quasiment pas de temps d'antenne pendant ce temps-là, comment tu fais pour prouver que tu es en train de t'améliorer, que tu es en train de progresser? C'est vachement complexe quand même, quoi. J'avais pas eu connaissance, si tu veux, quoi, de ce système-là dans le monde du catch professionnel. Mais en tout cas, si vous y pensiez, la WWE, elle l'a fait.
Bah écoute, effectivement, c'est devenu un peu l'usine, quoi. C'est-à-dire, enfin, pas l'usine, mais genre, ils signent plein de petits jeunes.
Ouais.
Et puis, après, derrière, c'est l'entonnoir, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de déchets et beaucoup de rêves qui vont s'écraser, là, au bout de 90 jours, sur la arpeindre la réalité, là, comme on dit, là. Ça va être dur. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est le monde du catch peut être impitoyable. Ça peut être merveilleux. Ça peut être également impitoyable. Bon, dès qu'ils s'en sortent bien, qu'ils sont bien lotis finalement, cette division 24-7, mon bon tonton. Eux, ça s'amuse, ça rigole, ça se marie.
Ouais, ouais. Ils ont du temps d'antenne.
Il y a du temps d'antenne, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on aime. Et ce soir, donc, alors, c'est ma faille temporelle dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est un, avant le show, Reggie a essayé de discuter avec Dana Brooke parce que c'est un peu le bordel. Voilà, après tout ce qui s'est passé entre eux, et puis il y a R-Truth, Tozawa et Tamina qui débarquent. Ça commence un peu à se disputer. R-Truth qui en plus je sais pas si c'est maintenant ou c'est un petit peu plus plus tard, nous explique ouais, il est également juge, enfin il est également certifié pour gérer les affaires de divorce. Je crois que ça arrive un petit peu plus tard après ce qui va suivre. Et puis on a un Nicky H qui était dans les parages, et puis Nicky H qui en a profité pour aller choper le titre. Elle a fait le tomber sur Dana Brooke et donc a gagné le titre. Alors moi je suis content, c'est super, après un titre mondial, Nicky H qui va choper le deuxième titre le plus prestigieux de la WWE, le 24-7. Dana Brooke, elle était pas content, elle dit Reggie, fais pas le con là, grosso modo, si ce soir tu veux pas dormir sur le canapé, t'as intérêt à aller me dégoter un match. Et Reggie, il voulait vraiment pas dormir sur le canapé hein, ce soir. Il a réussi à obtenir un match. Lui aussi, aller voir Mr. McMahon. Il a obtenu un match pour sa belle Dana Brooke. Et puis, je crois que ça tourne plutôt bien pour elle, puisqu'elle récupère le titre dans un match qui a duré encore moins longtemps que tous les autres. Et derrière, c'est encore le bordel. Et Dana Brooke parvient à s'échapper. Je crois que Reggie, en plus, a tenté de lui choper le titre. Encore, enfin, il a tenté encore à tomber. Et cette fois-ci, elle chope le micro et là, tonton, qu'est-ce qu'elle réclame? Qu'est-ce qu'elle veut, Dana, maintenant?
Divorce!
Elle demande le divorce. Et oui, c'est comme ça que ça se termine. Hein, vraiment. Deux couples sur trois à la WWE se terminent en divorce. C'est pas facile, l'amour, tonton. C'est pas facile.
Un divorce express consommé, quoi. Non, mais incroyable, quoi. C'est tranquille. En une semaine, tu peux divorcer et tu peux le faire du haut d'une table d'annonceur de la WWE.
À la télé, piquant... devant des millions et des millions de spectateurs.
Voilà, en piquant une crise au micro, c'est assez incroyable, quoi. Non, mais le 24-7, ils sont en total roue libre. Hein. Alors là, R-Truth aussi, il y a tout un segment avec lui backstage qui est quand même assez comique. Et après, tout ce qui se passe dans le ring, c'est complètement what the fuck-esque. Alors là, ce qui est bien avec le 24-7, c'est qu'on se demande pas de où ils vont aller, comment ils vont y aller. On s'en fout, en fait. L'essentiel, c'est qu'ils y aillent. et puis, Nicky H. Ah, j'ai pensé à toi, patron, quand même, quoi. Parce que Nicky H, effectivement, passer du titre mondial à la ceinture 24-7, ça peut faire mal. Mais, il y a peut-être. Il y a peut-être une entente, une alliance écossaise qui est en train de se nouer dans les bas-fonds du vaisseau amiral. Et en l'occurrence, Doudrop et Nikki, moi je trouve que ça serait pas mal du tout cette petite affaire-là.
Alors là, je t'arrête tout de suite, ce serait mieux que pas mal du tout.
Ça serait mieux que pas mal. Ah.
Mais bien sûr, ce duo écossais-là. D'ailleurs, on en avait eu, alors pas un petit début, mais tu te souviens à un moment donné qu'il y avait Doudrop qui était pas mal mise en avant. Voilà, c'est des filles qui étaient souvent ensemble. Il y avait des Écossaises, des Irlandaises, des Néo-Zélandaises. Il y avait du beau monde dans la division féminine. Et on se disait, ah oui, elle pourrait être ensemble et tout, ça serait pas mal. Et effectivement, les deux Écossaises ensemble avec Nicky H qui a l'air de. L'hôtel lui dit, grosso modo, t'es histoire de déguisement, je sais pas quoi, là, c'est terminé, là, tu veux vraiment continuer là-dessus? Et ouais, t'as fait, non, enfin, oui. Et ça a l'air de lui toucher quelque chose, ça a l'air de, peut-être que ça va débloquer quelque chose, et effectivement, alors là, une tag team, Doudrop, Nikki, Cross, ça serait quand même plutôt intéressant, là, pour les deux filles, pour aller alimenter cette division tag team féminine. Bon, écoute, hein, encore 24-7, on peut compter sur cette division pour faire avancer l'échiquier du catch mondial, tout simplement, mesdames et messieurs. C'est important de le signaler.
Et alors, au final, c'est qui termine champion 24-7 de cette soirée? Je me souviens même plus.
Ah bah c'est Dana Brooke,
Oui, c'est Dana Brooke qui repart avec la ceinture. Ouais,
elle bat Nikki dans son match, après tout le monde essaye un petit peu de lui piquer son titre, notamment Reggie, et après Reggie, bah, il se fait interpeller par le fameux Truth qui lui dit, écoute, bah, je suis juste, ça tombe bien, je suis pas seulement conseiller... matrimonial, pardon, mais aussi en divorce. Et je suis avocat et je peux à la barre et je peux, si tu veux, t'accompagner dans cette longue process de divorce. Il lui donne sa petite carte et c'est comme ça que ça se termine avec après les Écossaises qui se trouvent un point commun. Donc voilà, 24-7 qui fait avancer les choses pour beaucoup de monde finalement. Bobby Lashley.
Qui l'eût cru?
Ah non, alors avant Bobby Lashley, ce soir, c'était une soirée spéciale pour notre ami au costume, à la garde-robe, endiablé, Seth Rollins, Appreciation Night ce soir. Donc c'est une soirée où on va célébrer la carrière et l'homme, Seth Rollins. Il est sous son spotlight, il a cette belle lumière là qui lui tombe sur le haut du crâne et puis il dit bah voilà, effectivement je mérite d'être dans le spotlight. Et puis les fans commencent à chanter d'abord Seth Rollins, ils font la chanson, le chant, Seth Rollins se baigne dans les chants de la foule et puis après ça part sur des chants Cody Rhodes. Alors là, tout de suite ça lui plaît un petit peu moins, il lui dit bah voilà, je suis prêt pour Cody Rhodes, pour WrestleMania Backlash. Et puis Cody débarque avec sa musique, l'American Nightmare. Et lui dit oh, écoute, moi voilà, j'ai toujours été très courtois avec toi, Seth. J'ai toujours très poli. Je te dis bonjour, je te dis merci. Toi, t'es passé, t'as pas dit bonjour. C'est pas bien de pas dire bonjour. Et là, c'est Robin, il dit bah écoute, non, mec, t'es complètement fou. Il dit mais non, l'autre, il dit ouais, t'es complètement. Diligional, oh là, j'ai bu trop de café. Et il dit, bah, Rollins dit, non, mais attends, non, mais tu te fous de ma gueule, tu sais, puis là, il commence à parler mal de la famille. Il parle mal de la famille, il dit, tu sais, Dusty Rhodes n'a pas gagné, pourquoi il n'a pas gagné son titre de champion de la WWE, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas assez bon, et je vais te battre pour te prouver que toi non plus, t'es pas assez bon. Et puis, bah, ça termine en bagarre avec Cody qui place son cutter, là, comme je ne sais plus comment ça s'appelle. Son cutter, il saute des cordes et Rollins qui se barre. Donc là, ça commence à devenir très, très, très personnel, cette histoire. Et je pense que ça peut le devenir encore plus, là, mon tonton.
They took it personal. Ouais, c'est cool. Écoute, alors là, bah, je vais dire encore une. Décidément, ça n'arrête pas ces dernières semaines, mais encore une rivalité, moi, qui me plaît à fond à Monday Night Raw. Et alors là, Monday Night Raw Leeds face à Cody Rhodes, l'American Nightmare. Mais j'arrive même pas à y croire en fait par moment, si tu veux. Il y a des moments, je me dis, mais c'est pas. On est en 2022 et je suis en train de regarder une rivalité Cody versus Seth, quoi. Et on m'aurait dit ça en 2019 au moment de la création de la All Elite Wrestling, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Et pourtant, ça arrive sous vos yeux ébahis, peuple de catch-up. Et c'est que du kiff. Moi, tout passe. C'est cool. Alors, ils en font un peu des tonnes chacun sur leur. Je pense que ça peut saouler certains le fait que Cody Rhodes appuie sans arrêt sur tout ce qui les références à papa et tout ça, tu vois. Mais il y a ce côté legacy familial, etc. dans le catch, c'est tellement important. On le voit à travers la bloodline, hein, rien qu'à travers la bloodline de toute façon. Hein. Et donc oui, effectivement, Cody il appuie énormément sur Dusty Rhodes et tout ça, mais c'est pour justement encore plus appuyer, à aider. J'ai presque envie de dire Seth Rollins à être encore plus salopard que jamais. Et mais finalement, c'est Cody qui va attaquer Seth Rollins, quoi. Et parce que finalement, Cody il supporte pas que Seth Rollins il le coupe sans arrêt, quoi. Quand il le coupe au bout d'un moment à la fin de la promo, quand il lui dit ouais, la pomme elle tombe jamais loin de l'arbre, et que Rhodes il se fait des faux espoirs, quoi. Et que mais que si Dusty Rhodes il a pas été WWE champion, c'est tout simplement parce qu'il était pas assez bon, quoi. Et c'est là, et c'est Rhodes qui attaque, quoi. Alors évidemment, l'attaque verbale est maléfique, mais tu vois quand même le babyface craque. Quoi, Cody il a gardé ce côté un peu nerveux, un petit peu pitbull agressif là, et même en babyface, et bah un Seth Rollins il arrive à faire sortir la bête, et moi j'aime beaucoup dans cette rivalité ça.
Ah bah tu sais que Cody Rhodes c'est un peu un faux gentil hein, de toute façon.
Ouais, je suis d'accord.
Avec gentil, il a une tête de faux gentil et typiquement effectivement c'est un mec, un gentil mais qui a du mal à contrôler ses nerfs et qui à tout moment peut facilement basculer. Alors voilà, c'est la famille aussi, on parle mal de la famille. D'ailleurs, je pense vraiment qu'il faut qu'il continue là-dessus. Alors je sais qu'on arrive à Backlash et je sais pas ce qui attend les deux hommes après ce fantastique pay-per-view là, qui lance la nouvelle saison de catch à la WWE. Mais vraiment, quand il a commencé à parler mal de Dusty Rhodes, ça fait plein de connexions dans mon cerveau, tonton. J'ai repensé à ce formidable comptoir du catch que tu as fait avec l'ami Raphaël en parlant de Seth Rollins, le premier champion NXT. Et qui a remis le titre à Seth Rollins? Qui a adoubé finalement un petit peu Seth Rollins? Qui était là?
C'est Dusty Rhodes.
C'est Dusty Rhodes. Et
c'est ça qui est énorme.
Il y a encore un truc à creuser parce que finalement, et pendant ce temps-là, Cody Rhodes, s'il n'était pas déjà parti, il y était presque, quoi. Il était ailleurs, il n'était pas avec son père. Et donc Seth Rollins, il peut dire, oh, tu sais, moi j'ai passé plus de temps avec ton père, je le connais mieux que toi. Finalement, tu ne le connaissais pas autant que moi. Limite, dire, c'est, finalement, il t'a remplacé, toi. J'étais le vrai fils de Dusty Rhodes. Et là, tu balances des trucs comme ça, mais c'est horrible.
C'est ça, c'est parce que toi, ouais. tu es un analyste averti de la WWE et du coup, tu as ces clés-là de compréhension dans la rivalité, ce que n'ont peut-être pas forcément des plus jeunes et tout ça, qui n'ont pas connu l'histoire justement par rapport à Seth Rollins. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le patron a bien fait de vous rappeler d'aller checker le champion NXT du comptoir du catch, parce que justement, on en parle longuement de ça. Et vraiment, ça, c'est, je trouve que dans la storyline, dans toute l'écriture de ce qui se passe entre Cody Rhodes et Seth Rollins, ça, c'est formidablement bien exploité, et je pense que ça va monter même en pression à WrestleMania Backlash, parce que tu vois, je serais pas étonné qu'à WrestleMania Backlash, il y ait une sorte de, un peu de battle de micro aussi, à un moment ou un autre. Je sais pas pour quelle région, je sais pas si ça sera en début de match ou à la fin, mais je sens que c'est pas fini cette histoire.
Ah oui, c'est pas fini, il faut que ça continue. Là, on n'est pas encore, je trouve, on n'a pas encore touché le truc, toi. On n'a pas encore appuyé suffisamment fort sur les trucs qui font vraiment très très mal. Comme il l'a dit, Cody, pour l'instant, ils sont restés. Il est resté très cordial malgré, on a vu un petit aperçu de, comme tu l'as dit, de Cody qui perd ses nerfs. Je pense qu'on peut encore continuer. Effectivement, nous à Catch Up, on est là aussi pour vous donner les clés de compréhension grâce à ce comptoir du catch qui va vous dévoiler un petit peu la backstory, l'origin story, pourquoi Seth Rollins et Cody Rhodes, ça peut être tout simplement une des plus grosses rivalités de l'année et peut-être même des années à venir, hein, avec tout ce qui entoure l'histoire de la famille Rhodes.
Et le dernier point de détail là-dessus, c'est que quand même Dusty Rhodes était donc un peu le papa de NXT, alors en étant le papa biologique de Cody Rhodes, et que finalement Cody Rhodes n'aura jamais été à NXT, n'aura jamais gagné de titre à NXT, etc. Et que c'est Seth Rollins qui, lui, de son côté, va donc gagner le titre de la brand jaune et noir. Et on se dit que vraiment le destin dans le catch, hein, c'est quelque chose, hein, mon patron. Hein. Franchement, ouais. Hein, c'est quand tu prends ça, on est en train de parler d'une histoire qui s'étale sur 12 années, quoi. C'est incroyable, quoi. Incroyable.
Et pour lui dire, toi, par exemple, Seth Rollins pourrait dire un truc à Cody Rhodes, il pourrait lui dire, lui montrer la photo, cette fameuse photo où Dusty tend le bras, il est fier de Seth Rollins, c'est pour lui dire, toi là sur la photo, c'est pas toi, c'est moi.
Mais ouais, oh là là, et ça serait trop bon temps.
Depuis
toutes ces années qu'on dit qu'on devrait être les bookers à la WWE.
Laissez-nous quelques histoires, voilà, juste les histoires importantes, voilà.
On voulait faire en télétravail.
En télétravail, on voit les scénarios par email, t'inquiète pas, venez sur le Discord, là, sur le Discord de Catch-Up, on vous les fout, vos storylines. Bon, allez, on se détend, tranquille, les histoires de famille, c'est lourd, hein, c'est lourd les repas de famille, tout le monde se balance tout dans la tronche, il faut aussi un petit peu des petits moments, un petit peu de détente, et un petit moment de détente, c'est tout simplement quand Cédric Alexander se fait rouler dessus par Bobby Lashley. Cédric Alexander qui dit qu'elle allait gratter l'amitié là auprès de
Vous
savez qu'est-ce que c'est que ça? Charrette, ça charrette, monsieur.
Ouais, Cédric Alexander, il a toujours pas compris la déliquescence du Hurt Business, quoi, et que
il aurait dû venir avec le t-shirt Hurt Business, toi. Le mec, il a toujours pas compris. Ouais, il s'est fait rouler dessus, là.
Ouais, clairement. Ouais. En 2 minutes 30, c'était réglé, quoi. Et en plus, il dit, Shelton Benjamin, il peut pas être là cette semaine, etc. Mon petit doigt me dit que Shelton Benjamin, ça m'étonnerait pas qu'il traîne dans les locker rooms lundi prochain.
Ouais, effectivement. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peut-être des trucs un peu backstage, non? Shelton Benjamin, c'est pas du genre à aller faire un petit peu du booking, truc comme ça?
Ouais, et je crois aussi surtout du coaching au Performance Center.
Ah oui, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ah bah oui, oui, ils ont le profil type, ces mecs-là. C'est des athlètes. Bah,
clairement.
Ils sont balèzes, ils sont investis, c'est des bons soldats. Ça fait des coachs parfaits, là. Parfait, parfait. Bon, bah voilà. Bon, bah l'autre qui a toujours pas accepté hein, le deuil, qui a pas fait le deuil encore du hard business. Et c'est vrai qu'on se moque de lui, mais ça avait été difficile aussi.
Ça avait été difficile.
On est tous un peu des Cédric Alexander dans la.
Rappelle-toi, on les avait pas nommés quand même tag team de l'année en 2020 hein, aux Awards de catch-up. Hein. Donc, quand même, tu dis, on est en 2022 et Cédric Alexander, il en est à réclamer des miettes à MVP quelque part. Pareil, lui aussi, dans les bas-fonds du vaisseau amiral. Tu vois, donc dur retour à la réalité pour notre ami Cédric.
Ouais, effectivement. On enchaîne. Alors, il y a eu pas mal de choses. Bah, on arrive quasiment au main event, là, mon bon tonton, hein, qui était le main event.
Parce qu'il y avait, en fait, c'est vrai que tu as eu raison, tu l'as signalé, mais c'est vrai qu'on arrive déjà au main event par rapport à d'habitude, parce que, effectivement, il y avait quand même beaucoup de vidéos package, dont un gros vidéo package qui a duré un moment, ça a été la vidéo match pour les 50 ans du rock, et qui rejoint la glorieuse tribu des Quinca. Bienvenue, Dwayne. Bienvenue parmi nous. Tu vas voir, on s'éclate, il y a des chips, ouais, et des dépistages colorecto, ouais.
Et puis des minuteries sur le poste de télévision, comme ça, la télé s'éteint alors que tu t'es déjà endormi au bout de 5 minutes devant ton écran. Alors bon, les filles, comment elles se sont retrouvées là? Asuka, Liv Morgan, Bianca Belair contre Becky Lynch, Rhea Ripley, Sonya Deville. C'est vrai, c'est une belle affiche, là, du main eventer, la petite jeune qui monte. Alors il y a eu pas mal de séquences backstage. Liv Morgan a dit qu'elle était prête pour se débarrasser de Rhea Ripley. Elle a fait son deuil. Voilà, Rhea Ripley, c'est terminé. On a eu aussi Becky Lynch, hein, Becky Lynch qui nous a fait une petite promo. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit, Becky Lynch? Elle avait dit quoi? Elle est toujours aussi belle dans son look des années 80, là.
On dirait la chanteuse de Motley Crue.
Ah oui, elle dit qu'Aska, oui, le retour. Alors, c'est ça, Aska fait son grand retour et ça lui plaît pas, Becky Lynch, parce que l'histoire du grand retour, c'est son histoire à elle. C'est elle qui est censée faire son grand retour et qui a la fameuse comeback story de l'été, du printemps. Donc, c'est pas normal. Et donc, Becky Lynch, l'histoire de Becky Lynch, ça va tout simplement commencer avec la fin d'Aska. Elle va la renvoyer de là d'où elle vient. Donc, la rivalité reprend avec la japonaise, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et puis, que sûrement. Bianca Belair a dû aussi avoir un petit mot au micro, peut-être là-dedans, je me souviens plus. Mais voilà, en tout cas, ce main event, mon bon tonton, s'est installé entre ces six catcheuses. Alors, Becky qui n'accepte pas la main tendue d'Aska, pour commencer, donc là, ça commence mal, justement. Devil qui commence, je crois, le match face à Aska et qui se fait balancer après par Belair, mais c'est Rhea Ripley après qui reprend le contrôle face à Liv Morgan. Évidemment, on nous fait un petit peu les face-off, parce que finalement, ce sont trois rivalités croisées, évidemment.
Exactement.
Bah oui, c'est comme ça qu'on construit des 3v3 à la WWE, et dans le catch, dans le monde du catch, dans l'histoire du catch, ça a toujours été comme ça. On nous raconte plusieurs histoires en une histoire. Et puis, alors, ça, vas-y, que ça met des coups de coude, des coups de genoux, là. Un dropkick. Depuis les cordes, Rhea Ripley qui fait la distraction et qui fait la distraction, et du coup Liv Morgan en a profité pour aller l'attaquer.
Son Oblivion.
Ouais, oui. Ensuite, Becky fait sa descente de la cuisse sur Liv Morgan. On a Rhea Ripley hein, qui reprend les affaires contre Liv Morgan, aidée par Sonya Deville. Liv Morgan qui a du temps d'antenne hein, ce soir, parvient à se glisser de la prise du nouveau finisher de Becky Lynch et qui place un DDT, et ça permet à Bianca Belair d'entrer entre les cordes sur une grosse pop. Elle attaque Rhea Ripley. La double superplex, Liv Morgan qui fait le save pour empêcher les méchantes de grappiller cette victoire, et Asuka débarque à son tour ça déroule sur Sonya Deville. On place des roll-up à droite à gauche. Deville place un running pour le compte de 2. Et Liv Morgan est de retour pour placer son Oblivion. 1, 2, 3, victoire de Asuka, Liv Morgan et Bianca Belair pour le main event de ce soir, mon bon tonton.
Oui, écoute, un match de 15 minutes 15, vraiment un gros main event féminin là. J'ai bien aimé là, toute l'arrivée des babyface quand elles se sont mises sur les cordes et tout ça. Je suis tellement heureux du retour d'Asuka dans le main roster là. Ça me fait vraiment super plaisir. J'ai trouvé que je l'ai trouvé bien en forme. J'ai trouvé qu'elle a fait un beau run entre les cordes ce soir. Là, il y avait presque pas de supporting cast hein, à part Sonya Deville et Liv Morgan qu'on pourrait les appeler comme ça. Mais là, t'avais de la main eventeuse de chez main eventeuse avec Becky, Bianca, Asuka déjà. Là, t'as un trio que du super méga lourd quoi. Donc donc du coup, je trouve que le match était vraiment sympa, vraiment bien envoyé. Comme tu l'as dit, trois histoires en une. Donc du coup, à chaque face-off, etc., gros soulèvement de la foule. De toute façon, le public de Greensboro avait décidé qu'il allait mettre le feu au main event. Et il y avait vraiment une super ambiance, donc ça, ouais, tout de suite, ça met du cachet au match. Et la semaine dernière, ils nous avaient livré un match All-Star Tag Team masculin. Là, j'ai envie de dire qu'on a eu le droit à un match All-Star Tag Team féminin. Donc, deux bons points pour la WWE en deux lundis consécutifs. Et voilà, encore un main event, moi, qui m'a ravi, quoi.
Écoute, je te rejoins, effectivement, tu l'as dit, c'est le back-to-back, c'était le tour des filles ce soir, et elles ont délivré la marchandise, hein. Chacune des six là, ont eu leur petit moment pour briller, hein. Un match solide de 15 minutes, avec plein de séquences aussi backstage, pour un petit peu faire monter l'ambiance, et puis voilà, que tout le monde soit bien au taquet, comme la foule de New York ce soir, qui ne s'est pas trompé, face à ce magnifique match, là, ce beau gros main event. Et puis avec, c'était un peu la même. Là, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu la même configuration avec du Mene Hunter et du petit jeune, du supporting cast comme le dit Tonton si bien effectivement. Et puis ça s'est terminé comme ça, hein, ce show rouge, mon bon Tonton.
Oui, complètement.
Le go home show de Monday Nitro. Et là, la question va se poser pour notre mot de la fin. On va distribuer des tops, évidemment, des flops, pas de problème. Une note, bien sûr. Et surtout, est-ce que ce Gom Show t'a donné envie de te poser dimanche soir face à devant ta télé avec la minuterie activée pour regarder WrestleMania Backlash côté rouge?
Ah ouais, là, il n'y a pas de problème, je suis convaincu. Donc, côté rouge, de toute façon, j'ai peu de doutes en ce moment. Hein. Je trouve que on le dit semaine après semaine, ça fait quelques lundis de suite qu'on fait ensemble, mon patron. Et franchement, moi, je trouve que depuis le début de l'année 2022, on a de la grosse qualité du côté du vaisseau amiral. Les notes, j'écoutais un peu, je note quand même après les reviews mes notes au fur et à mesure, et je vois que mes notes de Raw, elles sont toujours entre 3 et ça va jusqu'à 4,5 depuis le début de l'année. Donc vraiment Monday Night Raw, c'est surprise en surprise, c'est vraiment vraiment cool, et moi je m'éclate bien, et encore à Monday Night Raw je me suis bien éclaté. Encore un Monday Night Raw où je vais avoir un peu de mal à trouver du flop, mais un petit peu moins, puisque je vais le mettre assez facilement au fait du handicap match théorie mise face à Mustafa Ali. Voilà, j'ai trouvé que c'était un espèce de Miss TV au rabais, quoi, un Miss TV de low card, et on s'est pas trompé, c'était bien ça. Et puis bah, la fameuse stipulation handicap match qui est complètement rincée, donc ça malheureusement. Et alors ils ont fait fort puisqu'ils ont réussi à mettre deux stipulations que détestent à la fois Papy et moi, puisque dans la même stipulation il y avait handicap match et contenders championship match. Donc vraiment ils avaient, ouais voilà, ils avaient, face aux champions, ils avaient tout faux, voilà, et c'était le champion qui était dans le camp de ceux qui étaient à deux, donc vraiment, enfin bon, c'était un peu nawak ça, mais voilà, c'était à la rigueur un petit flop parce que voir la déshérence de Ali c'est quand même assez incroyable. Et puis mon top j'hésite, hein, parce que mon top, tu vois, il y a plusieurs trucs qui m'ont vachement plu, quoi. Le main event m'a beaucoup plu, mais l'interaction Cody Seth Rollins m'a énormément plu. Et au final, mon top, je vais le mettre au troisième truc, je vais le mettre à Edge Styles versus Damian Priest. avec tout le décorum autour, avec Edge complètement, voilà, complètement agité en ce moment. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un match de très bonne qualité de catcher que j'aime beaucoup. L'arrivée de Finn Balor, enfin bref, il y avait un espèce de total package dans ce segment et que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça sera mon top de la semaine. Et puis ma note, et bah écoute, ça sera une note un petit peu plus basse que la semaine dernière, parce que la semaine dernière vraiment j'étais rentré dans une stratosphère que je ne me connaissais plus. Là, je vais lui mettre une belle note solide quand même. Hein. Je vais lui mettre un bon 3,75 à ce Monday Night Raw.
Ah ouais, c'est bien, solide. Ah ouais, effectivement, c'est vrai que la semaine dernière, on s'était emballé.
La semaine dernière, là, ouais, c'était la folie. Quoi. On a commencé à 4, 4,5, puis on a terminé à 5. Quoi.
Oh, c'est comme ça. C'est comme les soirées dans le studio Catch-Up. On arrive à 2, 3, et puis à la fin... Pff. À la fin, il y a Christophe Agius, il y a tout le monde.
Il y a Jean Brassard, il y a tout le monde.
Jean Brassard, tout le monde dans le studio, là. Bon, écoute, de mon côté...
Ringside qui pleure.
Quoi, Ringside qui pleure, t'as dit?
Ah bah, remember, you talk too much, hashtag 10.
Ah oui, mais alors là c'est en fin de soirée, 3h, tout le monde a un petit peu dans le nez. Et puis, ah, toi, t'es mon frère et tout, puis tu commences à ouvrir ton cœur. Ouais. Et puis les émotions sont démultipliées, mais ça vient de là, ça vient, voilà, les vrais savent. Bon, écoute, pareil pour moi, hein, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, un go-home show aussi assez solide, même si honnêtement sur pas mal de matchs, la marchandise était déjà assez vendue, mais il n'y a pas eu de faux pas. En fait, je crois que je vais te rejoindre sur le flop, effectivement, c'était ce Miss TV qui était aussi en plus trop long, qui n'a pas servi à mettre Ali en valeur. Alors, j'adorais Ali, mais je ne suis pas certain que son retour était nécessaire avant de se faire virer. Pour mon top, c'est pareil que toi, je pourrais en filer plusieurs, mais je vais faire quelque chose que je fais à chaque fois, c'est dès que je peux donner un top à Nikki Cross, je le fais. Du coup, bah, je vais le faire ce soir, puisque ce petit frétillement de peut-être une tag team avec Doudrop m'inspire énormément. Et du coup, bah, j'encourage totalement l'Écossaise à accepter l'invitation, la main tendue par Doudrop. Et puis pour ma note, écoute, bah, je vais être comme toi. Hein. 3, alors je vais mettre 3,5 parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop, ça aurait pu être un autre flop, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de vidéos package, de recap, de earlier today, de machin. Un bout d'un moment, j'étais paumé.
Ça fait baisser un peu la note de toute façon, ça.
Ouais. Alors je comprends, il faut aussi, reposer les corps et les esprits avant un gros événement, mais je préfère quand ils utilisent ce temps-là pour mettre en avant peut-être d'autres catcheurs et d'autres catcheuses. Ils le font, hein. Toi, 24/7 a eu sa part, il n'y a pas de problème. Mais là, il y en avait un petit peu trop des vidéos récap. Et du coup, ça fait un petit peu baisser ma note, évidemment. Mais ça reste quand même tout à fait très, très, très honorable pour un go-home show. Voilà, quelques encablures du premier pay-per-view de cette nouvelle saison qui commence. Allez, catch-up. Vous le savez, c'est évidemment votre émission, votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE chaque semaine depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 6 années que on fait ça. Pour vous, pour nous, pour le monde entier, pour ne manquer aucun épisode, c'est très simple, il suffit de nous suivre en audio sur les plateformes de podcast habituelles, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et bien d'autres, la version vidéo sur YouTube également, sous laquelle vous pouvez nous placer un petit commentaire. Dites-nous votre top, votre flop et votre note. Mettez-moi les pouces. Levez vos pouces pour le patron.
Ah oui, patron.
Ouais, c'est à la romaine. À la Batista. Pouce levé, pouce vers le bas, pouce vers le haut. Hop là, attention. Et en plus, on vous propose des contenus, mais de qualité, des choses exceptionnelles comme cet entretien entre votre tonton Ketchup et monsieur Christophe Agius. Oh là 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 là. Avec ça, vous êtes gâtés. Et comme le dit Ringside, tout ça en plus, ben c'est gratuit pour pas un rond. C'est très simple. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Ketchup CDC sur Twitter, Instagram et Facebook. Et le lien vers notre Discord et dans la description. Alors là, mon tonton, il y a encore plein de choses qui arrivent. Alors, parce que là, on fait nos petites reviews de...
voilà,
habituelles, hebdomadaires. On en fait une, on en fait deux. Mais dès qu'on commence à avoir en plus des You Talk Too Much, dès qu'on commence à avoir en plus des Paris-Bercy WWE à analyser, et des shows de, des pré-shows de pay-per-view qui arrivent.
Ah, ah ouais, en ce moment, c'est full-time job, hein. C'est incroyable, quoi. Il y avait vraiment une semaine de dingue. Alors, à chaque fois, on se dit, ouais, oh, la semaine de WrestleMania, c'est une semaine de fou et tout ça. Et puis, en fait, trois semaines plus tard, on se dit, oh là là, mais là, on est en train de se faire une semaine de dingue, là.
Ouais, bon, en fait, la semaine de WrestleMania Backlash, c'est le vrai moment fort de l'année.
Eh ouais. C'est fou, c'est fou.
Surveillez la plaque de cuisson et bah c'est pas difficile. Hein. Abonnez-vous et comme ça on le fait pour vous de surveiller. Vous n'avez pas besoin de surveiller si vous vous abonnez. Vous mettez la petite cloche, vous abonnez, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer.
Tout et ouais, supportez-nous, ouais. Abonnez-vous, c'est important parce que justement comme on est entièrement gratos pour la formule consacrée de l'ignoble Ringside, et bah justement pour qu'on puisse vous proposer tous ces contenus, il faut qu'on a besoin justement des fameuses actions de la cloche. Et puis de s'abonner en masse sur Catch-Up.
Bah oui, ça aide un petit peu au un meilleur référencement. Et puis.
Et oui, complètement. Les commentaires. Ouais. Les commentaires. À quel point c'est important, les commentaires.
Ah, les aides, Catch-Up. Les quand t'es fait plaisir à ton tour, oui. Mettez-lui du bon moqueur. Allez tous mettre des commentaires sous l'entretien avec Christophe Agius. Un, parce que c'est il le mérite, tous les deux. Tonton mérite et Christophe, il le mérite. Et puis vous aussi, vous le méritez. Comme ça, ça aide au référencement. Et puis en plus, ça nous fait plaisir. Et puis comme ça, bah, ça nous permet de continuer à vous proposer tous ces contenus incroyables.
Et sans spoiler, quand même, il faut absolument que vous écoutiez ce You Talk Too Much 14 parce que pour la première fois dans l'histoire de Catch Up, votre Luchasaurus des podcasts, il s'est fait tout simplement piquer sa gimmick par l'ignoble Christophe Agius. Je vous laisserai écouter ça.
Ah oui, c'était un moment à la fois dur mais très kiffant à entendre, donc... Voilà.
J'ai trouvé mon maître.
Allez, bon, mon tonton, merci à toi encore. Grosse semaine. Toujours un plaisir de faire ces petites reviews de Monday Night Raw avec toi.
Merci à toi, patron, pour cet hosting de qualité, as usual. C'était un plaisir et à la semaine prochaine.
Allez, on vous donne rendez-vous, comme tu l'as dit, à très bientôt. Et vous, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine. Veine de catch. Salut, salut.
Patron, salut peuple de catcheurs! Patron, t'oublieras pas d'envoyer les chèques à la production AB1, s'il te plaît?